Voilà. On m'entend bien dans le fond ? C'est bon ? C'est bon, c'est parfait. Voilà, donc je vais aborder maintenant le deuxième volet de notre réflexion. Le pain, donc, on a vu tout à l'heure, la vigne, on a commencé à voir. Et on a commencé à voir que la vigne était l'image de la joie messianique. On verra aussi que c'est aussi l'image du peuple d'Israël. La vigne est parmi ces trois espèces du pays du Canaan qui sont les plus difficiles à faire venir. Quand les Israélites sont entrés dans le pays promis, c'était, nous est-il dit, le pays où coule le lait et le miel. Et ça, c'est une expression qu'on a du mal un peu à comprendre, parce qu'on ne connaît pas très bien le pays. Et pour nous, quand on parle de miel en particulier, c'est forcément du miel d'abeille. Or, les abeilles n'ont été élevées dans le pays d'Israël qu'à partir de l'époque de Salomon. Ce n'est que là qu'on commence à avoir des traces d'une abeille domestique. Vous pouvez avoir des abeilles sauvages, mais en général, ce n'était pas tellement exploité. Mais il y avait une autre sorte de miel qui a donné son nom au pays. C'est le miel de datte. Datte. Nous avons vu tout à l'heure que parmi les sept espèces du pays de Canaan, les sept produits, les sept végétaux, il y a le miel. Alors ça peut sembler étonnant parce que pour nous, le miel, ce n'est pas un végétal. Ce n'est pas un produit végétal, en tout cas. En Israël, ça l'est. Et quand j'étais enfant à l'école du dimanche, il y avait un épisode qui m'avait beaucoup frappé, que j'avais très, très mal compris. C'est lorsque Jonathan, après sa victoire contre les Philistins, traverse une forêt. Et vous vous souvenez que son père a interdit à tous les combattants israélites de prendre la moindre nourriture jusqu'à ce qu'il ait exterminé ses ennemis. Jonathan trouve que ce serment était un peu excessif. Il a faim. Et il se trouve que dans cette forêt, la forêt est tapissée de miel. Et il prend l'extrémité de son bâton, il la trempe dans le miel et il la porte à sa bouche. Et quand j'étais enfant, j'habitais pas loin d'une forêt. Et dans la forêt dans laquelle je me promenais et j'allais jouer, je n'avais jamais trouvé de miel par terre. Et ça me posait un problème. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et c'est beaucoup plus tard, quand je suis arrivé en Israël, que j'ai compris. Dans la vallée du Jourdain, et dans les vallées en général, mais surtout la vallée du Jourdain, à l'époque où les Israélites sont entrés dans le pays promis, il y avait des palmiers sauvages qui poussaient naturellement. Et les palmiers produisent, vous le savez, des dattes. Si la datte n'est pas récoltée, qu'est-ce qui se produit ? Elle se dessèche et elle laisse sourdre un jus, un sirop, qui tombe par terre et qui a la consistance du miel. Lorsque les Israélites sont entrés dans le pays et ensuite les Israéliens sont revenus donc à notre époque, on a recommencé à exploiter les dattes. Et notamment les dattes à partir desquelles on fait un miel de dattes. C'est un miel qui est très spécial. Si vous ne savez pas que c'est du miel de dattes, vous ne saurez pas que c'est. Vous penserez que c'est du miel d'abeille. Vous vous rendrez compte que c'est un miel un peu spécial, mais vous savez qu'il y a aussi différents types de miel en fonction des végétaux que butinent les abeilles. Et là, donc, on peut penser que c'est un miel d'abeille. En fait, c'est un miel de datte. Et quand la Bible nous parle du pays où coule le lait et le miel, ce n'est pas du miel d'abeille dont il s'agit, mais c'est bel et bien du miel de datte. Et ensuite, le lait. Pourquoi le lait ? Eh bien, parce que les Israélites sont entrés dans le pays promis par le Jourdain, et la vallée du Jourdain, ils ont trouvé ensuite une chaîne montagneuse qui forme un petit peu une espèce de colonne vertébrale du pays. Et cette région n'était pas cultivée, parce qu'elle était montagneuse, justement. Elle était couverte de forêts de chênes, et par terre, il y avait des myrtes qui poussaient à l'état sauvage. Le myrte, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, c'est un végétal aussi très, très résistant. qui est très, très difficile de faire disparaître. Et c'est pour cette raison que les Cananéens n'exploitaient pas cette région montagneuse. Ils ne s'y étaient jamais enracinés, ils avaient cultivé les vallées et ils habitaient les vallées où c'était plus facile, parce que ce pays ne représentait rien pour eux. Par contre, quand les Israélites sont entrés dans le pays promis, notamment les Éphraïmites, qui étaient une grande tribu, Josué leur a dit de défricher les forêts qu'il y avait dans la montagne et de s'y installer. Or, dans ces forêts qui étaient à peu près à l'état sauvage, proliféraient des troupeaux de chèvres sauvages, de gazelles et d'animaux de ce type-là, qui pouvaient être éventuellement domestiqués et par conséquent dont on pouvait utiliser le lait. Pays où coule le lait et le miel, c'était donc du lait de chèvres sauvages, puis ensuite de chèvres domestiquées. Ces chèvres, ou ces capridés, disons, servaient aussi éventuellement de casse-croûte à des lions, enfin des animaux sauvages peu sympathiques, qui font qu'il était assez dangereux pour un individu seul de s'aventurer dans ces forêts, parce qu'on risquait de faire des mauvaises rencontres et soi-même aussi de servir de casse-croûte à ces animaux. Et d'où cette expression que les espions ramènent à Josué quand ils ont espionné le pays, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais c'est un pays qui dévore ses habitants. Parce qu'on peut effectivement être dévoré par les lions, les tigres, les ours, les loups et toutes ces bêtes, les léopards qui habitaient dans ces forêts. Et par conséquent, il a fallu que les Israélites défrichent ce pays, pour le cultiver en particulier. Et pour ce faire, non seulement ils ont coupé les forêts et les myrtes qui s'y trouvaient, mais ils ont, c'était un pays assez sec et désolé, et on ne pouvait cultiver essentiellement que deux types de végétaux, deux types de produits dans cette région montagneuse du centre du pays, la vigne et l'olivier. Souvent d'ailleurs, ces deux végétaux, ces deux produits vont ensemble. Et quand en hébreu on parle d'une vigne, on précise toujours s'il s'agit d'une vigne de raisin ou d'une vigne d'olivier, parce qu'on a le même mot. Et parfois, on avait dans la même vigne des oliviers et des raisins. Pour ce faire, les Israélites ont dû construire des terrasses qui suivaient à peu près les courbes de niveau des collines et des montagnes qu'ils occupaient. Construire une terrasse pour la cultiver, c'était un travail considérable. Pour cultiver, on a calculé que pour cultiver un hectare de terre sur ces montagnes, il fallait entre 7 et 14 ans de travail. Vous imaginez ce que ça représentait. Or, aujourd'hui, dans toute cette région de la Judée-Samarie, qui sont ces fameux territoires disputés, on peut voir encore des centaines et des centaines de terrasses de ce type-là qui remontent aux Israélites. Les Israélites ont été les premiers à construire ces terrasses. Les peuples qui sont venus ensuite les ont récupérés jusqu'à nos jours. Mais au départ, c'était les Israélites qui ont construit ces terrasses parce que pour eux, ce pays était un pays qui leur était donné par Dieu. C'était le pays promis. Et contrairement à tous les peuples qui les ont précédés, ils ont cherché à s'enraciner dans ce pays. Et pour cela, ils n'ont pas épargné leur peine. Et ils ont fait ce travail de titan de construire ces terrasses sur lesquelles ils ont cultivé des vignes, à la fois, comme nous disions tout à l'heure, des vignes de raisin ou des vignes d'olivier. Finalement, c'est les mêmes conditions. Comment étaient donc réparties ces vignes? Nous avons une description très, très détaillée de ces vignes dans le chapitre 5 du livre du prophète Ésaïe. Connaissez ce texte, « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. » Et le prophète expose tous les travaux préalables, indispensables, pour que l'on puisse cultiver des vignes. D'abord, il faut caler la terrasse par des murets de pierre sèche. En effet, les précipitations qui tombent l'hiver et qui peuvent être très violentes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourrait effectivement faire en sorte que cette terrasse s'effondre. Donc tout le travail serait réduit à néant. Par conséquent, on cale la terrasse avec des murs de pierre verticaux et avec aussi un lit de pierre en bas sur lequel ensuite, que l'on comble avec de la terre que l'on apporte d'ailleurs. Alors vous voyez le travail que ça représente. On n'avait pas de grue, on n'avait pas de camion ben à cette époque-là. Tout se faisait à la main, avec des chariots tirés par des animaux, etc. Vous imaginez le travail que ça représentait. Ensuite, comme le dit le chapitre 5 du livre d'Ésaïe, il fallait éviter que les chèvres sauvages et autres, et même les animaux domestiques, les brebis, etc., ne viennent brouter cette vigne. Alors, on faisait une espèce de muret de pierre aussi qui lui avait pour rôle d'être une barrière pour ces animaux, sur lesquels on mettait les barbelés de l'époque. Les barbelés de l'époque, c'était des grosses épines qu'on appelle sirakotsanit en hébreu, qui vraisemblablement est aussi l'épine avec laquelle on a fait la couronne d'épines de Jésus. Et on garnissait le haut du muret de ces épines de telle manière que si les animaux essayaient de franchir cette palissade, ils se griffaient le ventre et puis ça leur coupait l'appétit immédiatement, évidemment. Maintenant, il y avait un autre problème, c'était que pour cultiver quoi que ce soit dans ces régions-là, il fallait de l'eau. Or, de l'eau, eh bien, on l'a vu, c'était quelque chose de très rare. Et les Israélites sont arrivés dans le pays promis avec une invention révolutionnaire pour l'époque. C'était la citerne. Qu'est-ce que c'est qu'une citerne ? C'est un réservoir artificiel, en général creusé dans la roche, ou, disons, placé dans un endroit assez rocheux, que l'on enduisait d'un produit qui l'imperméabilisait. Et autour de cette citerne, on creusait des canaux qui captaient les eaux de pluie quand il y avait les pluies et qui les ramenaient toutes à l'intérieur de la citerne. De telle sorte qu'on pouvait, pendant la saison des pluies, mettre en réserve de l'eau pour la saison sèche. L'eau, évidemment, qui était dans cette citerne était une eau stagnante. Et ce faisant, elle pouvait développer toutes sortes de micro-organismes qui la rendaient difficilement digérable. Aujourd'hui, évidemment, nous ne supporterions pas une eau de ce type-là. À cette époque-là, il y avait une immunité naturelle que les habitants de ces pays avaient, mais quand même, il y avait des limites. Et c'est une des raisons pour lesquelles on plaçait ces citernes dans l'obscurité la plus complète. Ça veut dire qu'on mettait au-dessus de la citerne des grosses pierres qui empêchaient la lumière d'atteindre l'eau. Et lorsque l'eau était ainsi dans l'obscurité, les micro-organismes se développaient beaucoup moins. Mais néanmoins, ce n'était quand même pas une eau excellente. Et on compare souvent dans la Bible cette eau stagnante des citernes avec les eaux vives, ce qu'on appelle les eaux vives, qui sont des eaux courantes, ça veut dire des eaux de rivières ou de torrents ou de sources naturelles qui jaillissent. Et vous vous souvenez notamment de ce texte de Jérémie, dans le chapitre 1 ou 2, je crois, où le Seigneur dit par la bouche du prophète, parlant du peuple d'Israël, « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Mais, évidemment, dans cette région montagneuse où il n'y avait pas d'eau vive, justement, on était bien obligé de se contenter de l'eau des citernes. Et cette eau que l'on buvait quand on n'avait pas d'autre choix, on pouvait en tout cas l'utiliser pour l'irrigation. Et chaque terrasse avait donc sa citerne. Vous trouvez ça aussi dans le chapitre 5 du livre du prophète Ésaïe, où il est question que le Seigneur a planté Israël comme une vigne. Il l'a abrité par ce muret pour empêcher que les animaux la broutent et il a creusé une citerne pour l'irriguer. Et à partir de la citerne, on creusait des canaux qui amenaient l'eau à l'endroit où on avait besoin, à l'endroit où on plantait justement les ceps de vigne ou les plants d'olivier. Ça, c'était un autre point. Une autre nécessité indispensable dans les vignes, c'était la tour. on construisait une tour pour empêcher, d'une part, des animaux tels que des renards, qui sont quand même plus agiles que des brebis, de venir manger les raisins. Vous trouvez ça, par exemple, dans le livre des Cantiques des Cantiques, où la fiancée dit « Prenez-moi les petits renards qui nous mangent les vignes alors qu'elles sont en fleurs. » Et il y avait toujours des gardes qui étaient sur la tour, notamment plus la saison des vendanges approchait et plus il fallait prendre garde à ce que les vignes ne soient pas détériorées, soit par des animaux prédateurs, soit par des pillards qui pouvaient venir aussi voler les vignes. Et donc il y avait des gardes, où la fiancée du Cantique des Cantiques déclare aussi qu'elle a été faite gardienne des vignes par ceux qui l'ont employée. Il y avait, la tour servait aussi à stocker le vin quand il avait été récolté. Il y avait une espèce de en bas, il y avait une espèce de cave où le vin récolté qui était placé dans des outres de peau de chèvre était mis à vieillir et à fermenter jusqu'à ce qu'il soit consommable. Et puis enfin, il y avait évidemment quelque chose de très important, le pressoir à vin. Alors un pressoir à vin, c'était un petit peu le même principe que la citerne. C'était un réservoir qui était creusé dans la roche avec deux niveaux. Un niveau supérieur et ensuite une déclivité et ensuite un deuxième niveau. Lorsque on récoltait le vin, ça, c'était un temps de joie. La récolte du vin, la récolte de la vendange, qui se faisait donc à peu près à la fête de Soukhot. Soukhot, c'était avant Soukhot, plus exactement. On appelle Haga Asif Soukhot. Ça veut dire la fête des dernières récoltes. Et les dernières récoltes, c'est justement le vin. Soukhot est une fête messianique. Et nous avons vu qu'il y a une relation entre l'époque messianique et le vin. Et donc, quand on avait fait la récolte du vin, des raisins, on les plaçait sur le niveau supérieur du pressoir. Et sur le niveau du pressoir, on faisait une espèce de portique en bois avec des cordes. Et entre les deux niveaux, on mettait des épines semblables à celles qu'on mettait sur les murets pour empêcher les animaux de venir brouter la vigne. Et ce rideau d'épines servait de passoire, de telle manière que quand le vin était foulé, le jus pouvait passer entre les épines, mais la pulpe du raisin était retenue par ces mêmes racines. Et le fait de fouler le grain, de fouler le raisin, c'était un travail assez pénible. C'est un travail qu'on effectuait avec plusieurs fouleurs. Ça dépendait de l'importance du pressoir. En général, le minimum, c'était deux. Il pouvait y avoir trois, quatre, cinq, éventuellement, personnes qui foulaient le grain en même temps. On le faisait avec les pieds et les pieds nus. Pourquoi ? Pourquoi ne faisait-on pas avec, par exemple, une meule, comme l'avons vu tout à l'heure, pour le grain ? Eh bien, tout simplement, parce qu'il faut que la pression sur le grain de raisin soit suffisante pour l'écraser et pour en faire jaillir le jus, mais à l'intérieur du grain, il y a un pépin. Et si le pépin est broyé, il va répandre avec le jus un produit qui est extrêmement amer et qui va rendre le vin pratiquement imbuvable. Donc il faut une pression suffisante pour écraser le grain, mais pas suffisante pour écraser le pépin qui est à l'intérieur. C'est pourquoi on le faisait avec les pieds. Alors, cela se produisait de la manière suivante. Ceux qui foulaient se suspendaient à la corde pour ne pas glisser quand ils foulaient le grain. Et là, donc, ils piétinaient pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Et là, ils étaient... une nouvelle équipe prenait le relais de ceux qui étaient complètement épuisés. Et pour donner du courage à ceux qui foulaient le grain, on chantait. Et l'on chantait des cantiques qui étaient appropriés pour le temps des vendanges, que l'on appelle en particulier les psaumes achevé sur la guittite. Guittite, ça vient du mot gat en hébreu qui signifie pressoir à vin. Et par conséquent, les psaumes qui portent ce titre, que vous avez déjà rencontré dans votre psautier, à chanter sur la guittite, étaient des psaumes qui étaient spécialement composés pour le moment où l'on foulait les raisins. Et donc, quand on foulait les raisins, le jus passait donc au travers de cette barrière d'épines dont je vous ai parlé tout à l'heure et tombait dans le réservoir qui était situé en bas, où il était ensuite récolté et placé dans des outres qui ensuite étaient placées dans la tour que j'ai évoquée tout à l'heure. Et là, donc, nous avons toute une symbolique que l'on retrouve souvent évoquée dans la Bible. Et le temps des vendanges a deux significations totalement opposées. D'abord, en relation avec le temps messianique dont je vous ai parlé, donc un temps de joie. Et de la même manière que le temps de la moisson, qui est aussi un travail très dur, nous l'avons vu tout à l'heure, est un temps qui symbolise la venue du Messie, la venue du temps messianique, de la même manière, le fait de fouler le grain, le raisin, est aussi un symbole et une image de la joie messianique et du temps messianique. Et c'est pourquoi les psaumes qui sont à chanter sur la guittite sont des psaumes de réjouissance et de joie. Mais le temps des vendanges peut avoir aussi une signification diamétralement opposée et pourtant complémentaire. Elle peut être le symbole du jugement de Dieu. Le jus du raisin, qu'on appelle tiroche en hébreu, ça veut dire le grain qui était juste pressé et qui était considéré comme le vin le meilleur, le vin qui n'avait pas encore fermenté. Et ça, c'était le plus apprécié de tous les vins. Mais il était aussi, il ressemblait à du sang. Surtout quand c'était, des raisins noirs, ce qui était le plus fréquent en Israël à cette époque-là. Il y avait peu de vin blanc à cette période. Et par conséquent, c'était l'image, le fait de fouler aux pieds, c'était aussi un symbole de jugement. Nous étions avec notre frère Canon à un dernier voyage. On a vu justement ces fameux pieds. Et là, c'est une découverte tout à fait extraordinaire qui est tout à fait récente et qui est très peu connue. Un archéologue israélien, il s'appelle le professeur Adam Zartal, malheureusement décédé le jour où nous sommes arrivés là-bas. C'était pour nous un coup terrible. C'était un ami très cher. Professeur Adam Zartal, qui avait été élevé dans l'athéisme et qui était arrivé à la foi en Jésus, par l'archéologie, a découvert dans la vallée du Jourdain, jusque dans les montagnes, 5 sanctuaires israélites en forme de pied. Et ça, c'est une structure qui est unique au monde. Vous ne trouvez ça nulle part ailleurs dans aucun pays du monde. Par la poterie notamment, on a déterminé avec certitude qu'il s'agit bel et bien de structures qui ont été construites par les Israélites. Et les Israélites, quand ils sont entrés dans le pays promis, parce que la datation correspond exactement à la date de l'Exode telle que nous la trouvons dans la Bible. Mais problème, pourquoi un sanctuaire en forme de pied ? On le voit bien, c'est quand on fait des photos aériennes en particulier. On voit très bien le talon, les orteils, etc. Ce n'est pas une sandale, c'est un pied. Et le professeur Zartal a fait une relation avec des bas-reliefs égyptiens que l'on trouve dans ce pays, où l'on voit le pharaon piétinant ses ennemis, foulant aux pieds ses ennemis. Et fouler aux pieds ses ennemis, c'est les subjuguer, c'est les dominer, c'est prendre autorité et pouvoir sur eux, c'est les vaincre. C'est un symbole de victoire. Or, les Israélites ont récupéré cette idéologie quand ils étaient en Égypte. Et lorsqu'ils sont entrés dans le pays promis, eh bien, ils ont créé ces sanctuaires en forme de pied pour montrer qu'ils prenaient possession de ce pays sur leurs ennemis. Et ça, vous le trouvez déjà dans la Bible. Lorsque Abraham entre dans le pays promis, il reçoit de Dieu l'ordre de construire des autels. Construire un autel aussi, c'est consacrer le pays à la divinité que l'on adore. Chaque nation, chaque pays avait son Dieu. Et quand on passait une frontière, en général, on rencontrait un sanctuaire. Comme aujourd'hui, on trouve des postes de douane, ça n'existait pas à l'époque, mais on trouvait aux frontières, en général, des sanctuaires. Par exemple, Jéroboam a construit deux sanctuaires à la frontière nord de son pays, à Dan, et à la frontière sud, à Bethel. Et on retrouve aussi, dans le pays de Juda, des autels à Beersheba, qui étaient la limite sud, la frontière sud du pays. Ça veut dire que quand on rencontrait un autel à tel ou tel dieu, par exemple, on savait qu'on entrait dans son pays. En construisant des autels, Abraham consacre le pays à son Dieu. Dieu va être le Dieu de ce pays de Canaan. Et lorsque les Israélites entrent dans le pays, ils construisent à leur tour des autels. Ça veut dire qu'ils consacrent le pays qu'ils viennent de conquérir à leur Dieu. C'est une conquête spirituelle en même temps qu'une conquête militaire. Mais ces sanctuaires, au centre duquel il y a ces autels, sont construits en forme de pied. Et ça aussi, ça remonte à l'époque d'Abraham. Dieu dit à Abraham, quand il construit ses autels, « Parcours ce pays en long, en large et en travers, si j'ose dire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. » Ça veut dire qu'en parcourant le pays avec ses pieds, Abraham en prend spirituellement possession. Et lorsque Josué va rentrer dans le pays promis, Dieu lui dit la même chose. « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. » Voyez-vous, il y a toute cette idéologie d'une conquête à la fois militaire, mais également d'une conquête spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle ces sanctuaires sont construits en forme de pied, parce qu'ils indiquent la prise de possession du peuple d'Israël, du pays qui lui a été donné par Dieu. Ce pays, je vous le donne pour toujours. Vous avez la même idée dans le psaume 110, par exemple. Ce psaume 110, où il nous est dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et ça, vous le retrouvez aussi, c'est le psaume le plus souvent cité dans le Nouveau Testament, ce psaume 110, notamment dans le chapitre 15 de la première aux Corinthiens, où Paul déclare ceci, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Le dernier ennemi, c'est la mort. Par conséquent, mettre sous ses pieds quelque chose, c'est prendre possession, c'est régner, c'est avoir une victoire. Et fouler aux pieds le grain, c'est aussi le symbole d'une prise de possession sur les ennemis de Dieu. Et les prophètes, par exemple le prophète Joël, et puis on retrouve ça aussi bien sûr dans le livre de l'Apocalypse de Jean, où nous voyons la vendange, le temps de la vendange de Dieu, où le Seigneur va fouler aux pieds les grappes qui sont dans le pressoir et qui représentent toutes les nations qui se sont opposées à lui, qui se sont opposées à son plan, qui se sont opposées au peuple d'Israël. Et ses ennemis foulés aux pieds vont être comme ce grain qui laisse couler ce jus, et c'est le sang, cette fois-ci, de ses ennemis qui va être tellement abondant qu'il arrivera jusqu'aux morts des chevaux, nous dit le prophète Joël, et vous retrouvez cette image également aussi dans le livre de l'Apocalypse. Donc, le temps des vendanges a les deux dimensions. C'est à la fois le temps du triomphe et c'est en même temps aussi le temps du jugement. Mais les deux pensées ne sont finalement pas aussi contradictoires qu'il y paraît, parce que, comme l'avons vu tout à l'heure, le temps de la parousie, de l'apparition du Seigneur au dernier jour, sera aussi le temps du jugement des ennemis de Dieu qui seront foulés aux pieds, ça veut dire qu'ils perdront tout pouvoir, qui seront subjugués par la puissance de Dieu et qui seront ainsi soumis au Seigneur pour toujours. Vous trouvez ça aussi dans le psaume 2, que le Seigneur brisera ses peuples comme un vase de potier. Et il donc fera en sorte qu'il étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Et ce, nous avons vu la période des vendanges, la période au moment où on foulait les raisins, coïncidait avec la fête de Soukhot, la dernière des fêtes bibliques, qui est aussi une fête messianique, parce qu'elle évoque justement la venue du Messie. La fête de Soukhot est une fête qui se célèbre pendant 8 jours, 7 jours plus 1, et qui évoque toute l'histoire du peuple d'Israël, depuis les origines jusqu'à la fin. Ça veut dire le passé, le présent et l'avenir. Là aussi, il y a 4 produits du pays de Canaan que l'on utilise pour ce faire. Alors ça, il faudrait reprendre le chapitre 26 du livre du Lévitique, où sont évoquées les fêtes bibliques, et notamment cette fête qui se célèbre le 15e jour du 7e mois. Et le premier jour de cette fête, nous dit le texte biblique, vous prendrez le fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des branches de saule et des branches de l'arbre touffu. Et vous réjouirez devant l'Éternel pendant 8 jours, 7 jours plus 1, 8 jours. La fête de Soukhot est la fête la plus joyeuse de toutes. Et c'est un ordre qui est donné au peuple d'Israël de se réjouir. Et en principe, la joie doit aller en grandissant depuis le premier jour de la fête jusqu'au dernier jour de la fête. Et le dernier jour de la fête s'appelle Simchat Torah, ça veut dire la joie de la Torah. Les rabbins nous disent que ceux qui n'ont pas vu ce qu'étaient les réjouissances de la fête de Soukhot quand le temple existait, n'ont jamais su ce que c'était que de se réjouir. Et notamment ceux qui sont endeuillés ou qui ont des problèmes doivent, pendant cette période, mettre leur deuil de côté. Ils auront le temps de se lamenter après la fête. Mais pendant la fête, ils doivent aussi se réjouir, même s'ils n'ont pas le cœur tellement à ça. C'est dire que là, nous sommes effectivement dans l'anticipation du temps messianique. Le temps messianique qui sera marqué par la joie et qui sera marqué justement par ce vin nouveau qui sera donné par le Seigneur pour ce festin des noces de l'agneau. Et pendant toute cette période de Soukhot, les 8 jours de la fête, le peuple d'Israël déménage. Il va habiter sous des soukhotes. Alors, on traduit cette expression de différentes manières. Tabernacle, c'est le mot le plus courant. Faites des tabernacles. Bon, tabernacle, c'est un vieux mot de français qui ne veut plus dire grand-chose. Alors, les versions modernes traduisent un peu différemment, disons la fête des tentes, mais ce n'est pas vraiment des tentes. Tente, c'est un autre mot, c'est le moël. Et la soukha, c'est des cabanes, des huttes, etc. Donc la fête des cabanes ou la fête des huttes. Et le peuple d'Israël retourne au désert pendant ces 8 jours de la fête pour vivre comme leurs ancêtres l'ont fait pendant le séjour au désert, sous des cabanes précaires. Et pendant tout ce temps, il y a tout un cheminement spirituel qui se fait donc depuis le moment où on est entré dans le pays promis, ou plutôt on est dans le désert, et les 4 espèces de soukhot, c'est-à-dire les 4 végétaux que j'évoquais tout à l'heure, marquent chacune des 4 étapes de l'histoire du peuple d'Israël depuis sa vocation jusqu'à la fin. Le premier de ces végétaux, c'est la branche de palmier. Bon, le palmier, on le sait, c'est un arbre du désert. Et les Bédouins ont l'habitude de dire ceci, le palmier est un arbre qui a les pieds dans l'eau et la tête dans le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le palmier, évidemment, a besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Alors comment se pousse-t-il dans le désert? Eh bien, parce que le palmier pousse où il y a des nappes d'eau souterraines. Et le palmier est un arbre qui peut enfoncer des racines extrêmement profondes. Il va chercher l'eau à des profondeurs incroyables. De telle manière que quand on voit un palmier dans le désert, les Bédouins savent que là, il y a de l'eau. Alors, faut-il encore savoir capter cette eau? Ça, c'est une autre chose. Ce n'est pas parce qu'on a vu un palmier qu'un voyageur perdu dans le désert est pour autant sauvé. Il y a des techniques pour récupérer cette eau que seuls les Bédouins connaissent. Et beaucoup sont morts de soif au pied d'un palmier sans avoir pu récupérer son eau. Mais pour vous montrer comment le palmier a des racines extrêmement profondes, dans un parc botanique qui a été créé dans les montagnes de Juda, on a essayé de faire pousser des palmiers, ce qui n'est pas du tout le terrain propice pour ça. L'endroit des montagnes ne convient pas. Mais on a aménagé tout un espace pour faire pousser le palmier quand même. On a amené de la terre du désert et on a amené en particulier cette terre dans des grandes bâches en plastique noir qui retiennent l'eau. Donc on a arrosé le palmier avec ce moyen-là. Et au bout de quelques temps, on s'est rendu compte que les palmiers se sont mis à crever les uns après les autres. Alors, grosse interrogation, mais pourquoi ils ont crevé? Mais quand on a examiné le problème, on s'est rendu compte que les palmiers avaient poussé des racines tellement profondes qu'elles avaient percé les bâches plastiques et que toute l'eau que l'on déversait, bien, s'éparpillait dans le sous-sol et que les palmiers sont morts. Donc, des palmiers qui ont des racines très profondes. Et ça, c'est très intéressant parce que vous avez ce texte dans un psaume, le psaume 92, le psaume du Shabbat, « Le juste pousse comme le palmier ». Et le juste, il a des racines très profondes. Dans l'eau de la parole de Dieu, vous retrouvez ça dans le psaume 1, « Le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. » Et le palmier, il a la tête dans le feu. Ça veut dire que s'il a besoin de beaucoup d'eau, donc l'eau, c'est l'image de la parole de Dieu, on a vu tout à l'heure, que ma parole soit comme l'eau, l'eau qui atteint son but, c'est-à-dire de fertiliser la terre, de donner le pain au semeur et à celui qui récolte. Mais il a besoin aussi de beaucoup de chaleur, la chaleur du soleil. Il a la tête dans le feu, ça veut dire qu'il a besoin de la chaleur du soleil. C'est pourquoi il est l'arbre du désert par excellence. Et là aussi, c'est une image du juste, parce que l'eau, l'image de la parole de Dieu, le feu, l'image du Saint-Esprit. Et voyez-vous, dans la vie du croyant, dans la vie de nos églises, il faut cet équilibre entre l'eau et le feu, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. S'il n'y a que l'eau, s'il n'y a que l'enseignement de la parole de Dieu, la lettre tue, et par conséquent, le peuple de Dieu se dessèche. Et s'il n'y a que le feu, le Saint-Esprit, c'est l'illuminisme et on peut aller à tout vent de doctrine. Et c'est pourquoi dans l'Église, Dieu a placé à la fois des prophètes et des docteurs. Il y a cet équilibre toujours entre la prophétie et l'enseignement, parce que justement, nous avons aussi cette image du palmier. Et voyez-vous, donc, la première des sept espèces de Soukhot, des quatre espèces de Soukhot, pardon, le palmier représente le temps où le peuple d'Israël était dans le désert. Et puis, le peuple d'Israël a franchi le Jourdain, un cours d'eau. Et sur les cours d'eau, quel est l'arbre qui pousse en priorité? C'est le saule. Et là, les Israélites ont rencontré les saules. Et c'est pourquoi la deuxième espèce de Soukhot, c'est le saule, qui après le séjour au désert évoque la traversée du Jourdain, à pied sec d'ailleurs, comme nous est rapporté dans le livre de Josué. Et lorsque le peuple d'Israël a franchi le Jourdain, qu'il s'est enfoncé dans ces montagnes, qu'il a défrichées, qu'il a cultivées, comme nous avons vu tout à l'heure, alors il a trouvé les myrtes. Et la troisième des quatre espèces de Soukhot, c'est le myrte. Ça n'est pas dit expressément dans le texte biblique lui-même. Il est question de l'arbre touffu, tout simplement, tout comme du fruit des beaux arbres. Alors c'est quoi l'arbre touffu et le fruit des beaux arbres? Selon la tradition juive, c'est Salomon, le roi sage par excellence, qui a identifié ces deux espèces qui étaient restées dans le flou dans le texte biblique. Il nous est dit, dans le premier livre des Rois, chapitre 8, que Salomon, dans sa grande sagesse, cette sagesse qui surpassait celle des rois de l'Orient, a parlé sur tous les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui pousse dans le creux des rochers. donc depuis le plus grand des arbres, le cèdre du Liban, jusqu'au plus petit, l'hysope. Et par conséquent, grâce à cette sagesse et du fait qu'il ait parlé sur tous les arbres, Salomon a pu identifier les deux espèces qui manquaient. Et donc, l'arbre touffu, c'est le myrte. Ce myrte, qui, nous l'avons vu, pousse à l'état sauvage et qui est extrêmement résistant. Si on le coupe, eh bien, si on ne veille pas, il repousse. Et même si on le brûle, il peut repousser, c'est vous dire s'il est résistant. Et c'est pourquoi le myrte représente deux symboles dans la tradition juive. D'une part, la vie éternelle, puisqu'il est indestructible, et d'autre part, le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël aussi est indestructible. Et lorsque nous lisons, par exemple, le chapitre 8 du livre du prophète Ésaïe, le prophète annonce l'invasion des Assyriens qui vont venir pour ravager le pays. Et cela risque de provoquer alors un retour au statu quo hanté. Le pays cultivé va revenir à l'état sauvage. Les myrtes vont repousser. Et par conséquent, les chèvres sauvages vont à nouveau proliférer. Et si bien que le peuple d'Israël va devoir changer de régime alimentaire, d'un peuple d'agriculteurs, il va devoir redevenir, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau défriché le pays après le départ des ennemis, il va devoir redevenir un peuple d'éleveurs. Donc manger de la crème et du miel et du lait jusqu'au moment où le pays redeviendra fertile. C'est aussi en rapport avec la déportation à Babylone. Et dans le livre du prophète Zacharie, nous trouvons un épisode très intéressant où le prophète a une vision. Il voit quatre cavaliers qui sont parmi les myrtes. Et l'ange parle à ces cavaliers, dit au Seigneur, eh bien, qui sont-ils? Eh bien, ce sont ceux qui vont répandre la colère de Dieu sur les nations, qui ont dispersé Jérusalem. Et ils sont parmi les myrtes. Pourquoi? Parce que pendant les 70 ans d'exil, le pays est resté désert. Et les myrtes ont repoussé. Et les myrtes, au milieu desquelles se trouvent ces quatre cavaliers, et la promesse qu'on entre dans une reconquête du pays, comme du temps de Josué. Il va falloir redéfricher le pays pour pouvoir à nouveau le rendre fertile. Mais en même temps, c'est le symbole de du fait que le peuple d'Israël est indestructible. Le myrte, c'est le symbole de cette éternité d'Israël, comme c'est l'image de la vie éternelle. Et puis enfin, la dernière des quatre espèces, le fruit des beaux arbres. Et Salomon, selon la tradition, a identifié ce fruit des beaux arbres avec ce qu'on appelle en français un cédra. Alors cédra, on ne sait pas trop ce que c'est nous ici, parce que c'est un arbre méditerranéen essentiellement. On le trouve sur la côte sud, la côte d'Azur, etc., côte méditerranéenne, et en Corse, pour ce qui est de la France en tout cas. Le cédra, c'est une sorte de gros citron qui n'est pas comestible, mais qu'on utilise pour faire de la confiture. Et c'est un fruit qui est doré, donc qui représente un fruit d'or, et par conséquent qui représente le fruit de l'arbre de vie dans la tradition juive. Et la dernière étape de l'histoire du peuple d'Israël qui a commencé dans le désert avec le palmier, ce sera le retour à l'Éden, le retour au paradis perdu, et par conséquent le retour à ce fruit de l'arbre de la vie qui permettra justement d'entrer dans la vie éternelle. Alors vous voyez, ici c'est toute la symbolique de ce temps qui sera le temps messianique. Et c'est la raison pour laquelle la fête de Soukhot est associée aussi avec la vendange, où on a ces deux aspects, la joie messianique, quand on aura retrouvé justement et ces myrtes, la vie éternelle, et l'arbre de la vie, c'est-à-dire le paradis perdu, que la terre qui a été un désert, à cause du péché de ses habitants, redeviendra, comme l'ont annoncé les prophètes, un jardin d'Éden. Et pendant cette fête, on anticipe ce temps-là. Mais ce sera aussi un temps de jugement, pour les méchants qui seront foulés aux pieds, qui seront dominés. Et précisément parce que les ennemis du Seigneur ont été mis sous ses pieds, foulés aux pieds par ses pieds, eh bien, il n'y aura plus d'ennemis, il n'y aura plus d'adversaires, et par conséquent, la joie du peuple d'Israël sera complète. Et c'est la raison pour laquelle cette fête est la fête de la joie, parce que, bien qu'on ne soit pas encore dans l'époque messianique, on anticipe déjà ce temps messianique. On vit un petit quelque chose, en quelque sorte, de ce temps messianique, et par conséquent, on se réjouit d'une joie totale, d'une joie complète, qui sera comme celle qui sera manifestée au dernier jour. Voilà donc ici pour ce qui est de la vigne. C'est aussi l'image de l'exil et du rassemblement, et en même temps aussi la joie de la présence de Dieu. Maintenant, je voudrais évoquer très rapidement la dernière de ces trois espèces, l'huile. L'huile, évidemment, vous le savez tous, c'est l'image du Saint-Esprit. Cette huile, elle est produite par l'olivier. Et l'olivier est un arbre aussi très spécial. Dans la tradition juive, on l'appelle l'arbre de lumière. Ceci pour deux raisons. Alors, on n'a pas beaucoup d'oliviers dans notre pays, bien que moi j'en ai quelques-uns, j'en ai deux dans mon jardin. Ça revient à la mode, de fait, oui. Sur la côte sud, ici, ça pousse un peu mieux que dans le nord. Mais l'olivier, si vous le regardez bien, si vous soulevez ses feuilles, vous allez constater que le dessous des feuilles est doré, est argenté, pardon. Pourquoi ? Parce que dans les pays chauds, ce n'est pas trop le cas ici, mais dans les pays chauds, en plein été, dans les heures les plus chaudes du jour, eh bien, l'olivier tourne ses feuilles à l'envers pour présenter au soleil la partie argentée, qui agit comme un miroir et qui reflète, qui renvoie les rayons du soleil. Ça veut dire que l'olivier, avec ses feuilles, se protège de la chaleur du soleil en renvoyant cette lumière par l'intermédiaire de ses feuilles. De telle sorte que si vous visitez une vigne d'olivier, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'olivier est aussi cultivé dans les mêmes conditions que la vigne sur les terrasses que j'ai évoquées. Si vous visitez une vigne d'olivier en été à l'heure du midi, vous avez l'impression que tous ces oliviers sont en feu. D'où l'expression l'arbre de la lumière. Une autre raison pour laquelle on appelle l'olivier l'arbre de la lumière, c'est parce qu'avec l'huile des olives, on fabrique de l'huile pour brûler dans les lampes. Donc, l'olivier sert pour donner de l'huile. Vous vous souvenez du chapitre 4 du livre du prophète Zacharie, où le prophète voit cette menorah qui est tout en or et qui est directement alimentée en huile par deux oliviers qui sont à la droite et à la gauche de l'olivier et qui sont connectés avec les lampes du chandelier pour pouvoir les éclairer. Par conséquent, ici, l'olivier est directement en relation avec la lumière. Et c'est la raison pour laquelle il est aussi une image du Messie. Et un des noms du Messie dans la tradition juive, c'est Nehara, ça veut dire la lampe, le Messie, la lampe. Pourquoi le Messie est-il appelé la lampe ? Pour deux raisons. D'abord, parce que dans le récit de la Genèse, il nous est dit qu'au commencement, il y a eu la lumière. Dieu a créé la lumière. Or, les sources de lumière, le soleil, la lune et les étoiles, n'ont été créées que le quatrième jour de la création. Question : d'où vient la lumière qui est apparue au premier jour, si les sources de la lumière n'existaient pas ? Et la réponse est la suivante : c'est la lumière du Messie qui existait avant toute chose qui existait de toute éternité. Et c'est pourquoi le Messie porte le nom de la lampe. Et vous retrouvez ça dans le psaume 132, où il nous est dit que dans les temps de la fin, Dieu suscitera une corne à David, littéralement. Alors ça, on ne traduit pas comme ça, parce qu'en hébreu, en français, ça ferait drôle, une corne. En fait, on traduit par une force, une puissance, la corne d'un animal, d'un bovidé. C'est là que réside sa puissance, n'est-ce pas ? Ou même d'un bélier, etc. La corne, c'est la puissance. Donc, il suscitera une corne à David, une lampe, son Messie. Le Messie, la lampe, vous retrouvez ça dans le livre de l'Apocalypse. La Nouvelle Jérusalem n'a pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer, parce que l'agneau est sa lampe, nous est-il dit. la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est sa lampe. Donc ici, l'arbre de la lumière symbolise le Messie. Et il y a un midrash, ça veut dire une petite explication, une exégèse rabbinique très intéressante aussi sur la question du déluge. Le déluge est un retour au statu quo ante, c'est un retour au tohu-bohu, au chaos primitif. Et Dieu, donc, après le déluge, recrée en quelque sorte la terre qui avait disparu telle qu'elle était quand elle est rendue habitable pour l'homme. Et Noé, on peut dire, c'est un deuxième Adam, d'une certaine manière. Et vous vous souvenez que lorsque l'arche s'est posée sur la Ararat, que les eaux n'ont pas baissé, Noé va à plusieurs reprises envoyer des oiseaux, un corbeau, puis ensuite une colombe, pour voir si les eaux ont baissé. Et les premières fois, la colombe revient, bredouille, si j'ose dire. Et puis, quand Noé l'envoie à nouveau, elle revient avec un rameau d'olivier dans son bec. Et les rabbins ont dit ceci. Ça, c'est une image du Messie. C'est une prophétie messianique. La colombe, c'est l'image du Saint-Esprit. Et l'olivier, c'est le symbole du Messie. Au temps de la fin, quand à nouveau les jugements de Dieu auront atteint la terre, Dieu enverra le Messie par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne le Messie au monde. Et vous vous souvenez de l'Annonciation qui nous est rapportée dans le chapitre 1er de l'Évangile de Luc, où Gabriel annonce à Marie qu'elle va devenir la mère du Messie, et cette dernière déclare « Mais comment cela sera-t-il possible puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange lui répond « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Voyez-vous déjà, c'est contenu en gerbe dans cette prophétie messianique que l'on trouve dans cette histoire de la colombe qui apporte le rameau d'olivier dans son bec. Maintenant, il nous est dit ceci, c'est très intéressant, que lorsque l'olive est pressée, et je vais vous expliquer dans quelles conditions, eh bien, elle va donner cette huile. Cette huile, il va y avoir plusieurs catégories d'huile. Bon, là aussi, vous disiez tout à l'heure, le pain, le vin et l'huile, ce sont les produits les plus difficiles à faire venir. D'abord, quand les olives sont mûres, alors il y a deux saisons de maturation pour l'olive. On peut faire une première récolte de l'olive quand elle est verte, où on peut la laisser mûrir et attendre qu'elle soit noire pour la récolter. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les olives vertes et les olives noires ne sont pas deux espèces différentes d'olives, c'est la même olive, mais à différents stades de sa maturation. Et quand cette olive est récoltée, soit verte, soit noire, eh bien, elle doit être broyée. Alors, c'est le même système que j'ai exposé tout à l'heure. Il y a les meules qui servaient pour écraser le grain peuvent aussi servir pour écraser les olives. D'ailleurs, vous vous souvenez, ces meules de moulin aussi, Jésus en parlait en disant que si quelqu'un scandalise un de ses petits qui croit en lui, il vaudrait mieux lui attacher une grosse meule et le jeter dans la mer. Quand vous voyez ces meules de moulin qu'on retrouve dans les fouilles archéologiques, et vous imaginez que quand on a ça au cou, on a quelques difficultés à nager, croyez-moi. Et par conséquent, donc, ces olives sont broyées. Et ce qui est le plus broyé, c'est le noyau. Parce que c'est le noyau qui contient le plus d'huile. Donc il faut que la pression soit vraiment très forte, contrairement au pressoir à vin dont nous avons parlé tout à l'heure. Et quand ces olives ont été écrasées, ça ne vous donne pas de l'huile, ça vous donne une espèce de pâte grasse, huileuse. Et cette pâte, elle est mise dans des paniers ronds. Jusqu'encore aujourd'hui, quand j'étais en Corse, chez des frères qui nous recevaient et qui étaient des cultivateurs d'oliviers, et j'ai constaté qu'aujourd'hui, c'est exactement les mêmes techniques qu'autrefois, si ce n'est qu'à la place d'un âne qui faisait tourner les meules, aujourd'hui, c'est l'électricité qui le fait. Mais ça, mis à part, c'est exactement les mêmes techniques. Donc, on met cette pâte visqueuse dans des paniers ronds que l'on empile les uns sur les autres. Et déjà, le fait d'empiler ces paniers les uns sur les autres exerce une pression. Et vous avez déjà, pour les paniers qui sont inférieurs, une huile qui commence à couler. Alors on la récupère. Et cette huile, on l'appelle l'huile vierge. C'est l'huile la plus prisée, c'est l'huile la meilleure, l'huile de la première pression. Et à l'époque biblique, cette huile était réservée pour le Seigneur. C'était celle qu'on offrait au Seigneur. Ensuite, ces paniers sont placés dans un autre type de pressoir, c'est-à-dire une grande poutre qui est articulée, à laquelle sont suspendues des très grosses pierres. Alors il y a tout un système qui permet de libérer ce levier qui fait une espèce de balançoire, si vous voulez, vous savez, ces balançoires où on met deux individus de chaque côté. Et là, donc, il y a un contrepoids, on lâche le contrepoids, et les pierres écrasent ces paniers qui se trouvent en dessous. Et en dessous, on récupère, dans un bac, on récupère l'huile qui est ainsi exprimée. Alors, il y a en fait deux ou trois pressions de l'huile. Deux ou trois fois, on refait cette manœuvre. Et à chaque fois, on a une huile, évidemment, de qualité moindre. Et la dernière pression, c'est de l'huile de mauvaise qualité qui sert à être brûlée dans les lampes. Les autres sont gardées pour la consommation domestique et alimentaire. La dernière pression est utilisée dans les lampes. Et puis, on retrouve cette espèce de magma huileux qu'on peut aussi récupérer et qui peut servir aussi d'une espèce de bois de chauffage. Enfin, disons, on peut le brûler pour se chauffer cette fois-ci. Par conséquent, l'olivier est un arbre extrêmement important et extrêmement précieux. Et c'est la raison pour laquelle l'huile est représentée comme les larmes de l'olivier. Quand l'olivier est pressé, eh bien, il pleure. Et les larmes qui sont recueillies, c'est son huile précieuse. Maintenant, il est très intéressant de nous souvenir que Jésus, donc la lumière, celui qui a dit lui-même, « Je suis la lumière du monde ». Et ça, il faisait allusion à cette tradition-là. Il s'est retrouvé le soir de Pâques dans un jardin qui s'appelait Gat Shmanim, ce qu'on a traduit en grec par Gethsemane. Gat Shmanim, ça veut dire littéralement le pressoir aux olives. Il y avait cette fameuse montagne qu'on appelle le mont des Oliviers, qui domine Jérusalem et qui, comme son nom l'indique, était une plantation d'oliviers jusqu'à nos jours. Lorsque venait la saison des olives, on gaulait ces dernières et elles dévalaient les pentes du mont par gravitation jusqu'en bas où on les récupérait. Et tout en bas du mont des Oliviers, jusqu'à nos jours, il y avait des pressoirs à olives. On en trouve encore, de l'époque de Jésus en particulier. Bon, dire lequel était le jardin dans lequel Jésus est entré, ça c'est autre chose, parce que le mont des Oliviers fait plusieurs kilomètres de long. On montre deux endroits différents d'ailleurs, selon ce que l'on veut, si on est latin ou si l'on est grec, mais enfin bon, peu importe. C'était quelque part par là, quoi qu'il en soit. Et par conséquent, on appelait ces jardins Gat Shmanim, les pressoirs à olives. Et donc, le soir de Pâques, avant sa mort, Jésus est allé dans ce jardin, Gat Shmanim, le pressoir des olives. Et là, qu'est-ce que nous voyons ? Qu'il a été placé sous une pression formidable, la pression du péché du monde, la pression de l'adversaire qui est venu avec tous ses assauts, avec toutes ses forces, pour essayer de contre-promettre le plan de Dieu. Et Jésus, comme le rappelle l'Épître aux Hébreux, a versé d'abondantes larmes. Et Luc, qui était médecin, est le seul à nous préciser qu'il était tellement sous cette pression que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Les médecins savent que, de fait, sous une pression psychologique énorme, on peut effectivement suer des grumeaux de sang. Et en tant que médecin, Luc le savait. Et par conséquent, Jésus a été soumis à cette pression, à cette pression extraordinaire parce qu'il était l'olivier de notre salut. Et l'olivier aussi est symbole du Messie dans le chapitre 4 de l'évangile, plutôt du livre de Zacharie. Et là donc, nous nous trouvons dans cette symbolique extrêmement importante où nous retrouvons donc Jésus le Messie qui va subir cette pression pour que nous puissions entrer dans cette lumière, la lumière de la vie et la lumière de la vie éternelle. Je termine maintenant, je conclue. Il est intéressant de noter que ces trois produits du pays de Canaan, le pain, le vin et l'huile, on les retrouve aujourd'hui sur la table de Shabbat de toutes les familles juives qui respectent le Shabbat. Pourquoi ? Parce que ces trois produits, nous l'avons dit, étaient offerts chaque semaine sur l'autel quand le temple existait. Le temple n'existe plus. Et Israël, jusqu'à ces temps derniers, était en exil. Et la tradition juive nous dit que la table de Shabbat est devenue le substitut de l'autel. Et de la même manière que sur l'autel du Seigneur, on mettait le pain, le vin et l'huile, de la même manière aujourd'hui, les familles juives mettent sur la table de Shabbat le pain, le vin et l'huile. Et vous trouvez sur la table de famille, d'une part, deux pains, deux chalot, on aura peut-être l'occasion d'y revenir demain, deux pains tressés avec le meilleur froment, cette meilleure farine dont nous avons parlé tout à l'heure, une coupe de vin et deux bougies. Des bougies parce qu'aujourd'hui on ne s'éclaire plus à l'huile. Et ce sont le substitut de ce qu'on employait autrefois. Et je vous ramène à ce que nous disions tout à l'heure, sur la Mezouza, il y avait ce texte. Si vous gardez mes commandements et si vous écoutez mes ordonnances, alors je vous bénirai, j'enverrai la pluie en son temps et vous mangerez votre pain, votre vin et votre huile. Et avoir placé, continuer à placer sur la table de famille ces trois produits du pays de Canaan, c'est à la fois une prière pour que le peuple d'Israël soit ramené dans son pays et une affirmation de foi, un acte de foi qui fait que l'on garde le lien avec la terre d'Israël. Cette terre d'Israël, on ne l'oublie pas. On sait qu'un jour, on y sera rassemblé à nouveau et qu'à nouveau, on offrira au Seigneur ce pain, ce vin et cette huile et qu'on se réjouira pour le bon pays que Dieu nous a donné. Et déjà, par anticipation, le soir du Shabbat, on bénit Dieu pour ce bon pays qu'il nous a donné. Et voyez-vous, nous retrouvons la même chose dans notre Sainte Cène. Notre Sainte Cène, nous avons les trois choses. Le pain, le vin, et puis, en principe, la présence du Saint-Esprit, ça veut dire l'huile. Et un jour, c'est une annonce qu'il y a cette espérance aussi d'une résurrection, d'une réconciliation entre le ciel et la terre, avec un jugement qui sera le jugement dernier. Comme le peuple d'Israël, nous annonçons ces choses prophétiquement. Il y a donc cette liaison entre l'Église et le peuple d'Israël au travers de la Sainte Cène, parce que nous retrouvons ces trois éléments sur notre table. Et un jour, nous boirons et nous mangerons ces éléments dans le royaume de Dieu, au festin des noces de l'agneau, comme le peuple d'Israël espère le faire. Et ce sera le grand rassemblement final. Et c'est pourquoi aussi, pour échapper au jugement et avoir part à la gloire, il faut s'examiner et se juger soi-même avec cette espérance, comme le disait la Didaké, Seigneur, périsse ce monde et vienne ton royaume. Voilà. Donc on a un petit temps si on veut maintenant.
Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, besoin d'un éclaircissement sur un point, sur un domaine qui vient d'être évoqué? Plein de choses, hein, à foisonner. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui ont questions? Voilà. Oui, alors une là. Allez.
Pourquoi on appelle la vigne d'olivier? Est-ce que c'est par rapport à la hauteur ou par rapport au pressoir?
Je pense que c'est en rapport avec le fait que l'olivier et la vigne sont cultivés dans les mêmes conditions et dans les mêmes endroits. En général, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ça se voit encore, les vignes de raisin sont placées sur les terrasses les plus basses et les vignes d'olivier sont placées sur les terrasses les plus hautes. Il doit y avoir une raison agricole pour ça. Mais disons, oui, en général, c'est où vous avez les deux qui sont ensemble, ce qui est souvent le cas, où vous avez soit du raisin, soit de l'olivier. Et dans ce cas, on précise, vigne d'olivier ou vigne de raisin.
Ce sont des grands
arbres, l'olivier ? Ah, l'olivier, il n'est pas très grand. Il peut avoir 2-3 mètres de haut, mais non, c'est jamais un très, très grand arbre, l'olivier. Oui, ça, c'est du miel sauvage. Du miel sauvage. Mais il était pas très, très usité. Il était connu comme ça, mais bon, il n'était pas considéré comme très, très cachère, parce qu'il était dans des conditions.
Non, c'était du miel d'abeille.
Là, c'est du miel d'abeille, dans ce cas. Oui. On connaissait le miel, mais le miel sauvage. Le miel d'abeille, mais le miel sauvage. C'est à partir de Salomon qu'on a commencé à cultiver, à élever les abeilles. Et par exemple, on a retrouvé dans la vallée de Beth-Shan, ces derniers temps, une énorme exploitation d'abeilles où on a compté qu'il devait y avoir, il y avait des dizaines et des dizaines de ruches et il y avait de quoi les ruches pouvaient contenir 1 million d'individus. Ça veut dire la récolte qu'on se payait chaque année de miel.
Pour plus d'éclaircissement sur les abeilles, vous allez voir Michel.
Ah bon ?
On a un apiculteur.
Ah bon ? Ah ouais.
D'autres questions ? Alors peut-être revenir sur ce, juste revenir sur cette cette gerbe d'orge, hein, je crois, qui était emmenée pendant
d'orge.
La nuit. Alors, tu as parlé que c'était pendant le Shabbat et qu'il y avait une coïncidence entre le Shabbat et la fête de Pâques.
Oui.
Tu peux,
alors,
juste nous redire ça.
Bon, la fête de Pâques marque la fin de l'hiver et le début de l'été. Pratiquement, il n'y a pas de printemps en Israël. Hein. Et par conséquent, donc, comme j'ai dit, à Pâques, on cesse de prier pour la pluie et on prie pour la rosée. Et là va commencer la période de l'Omer, cette période difficile où il faut cet équilibre entre les deux vents et en même temps où on fait les deux moissons, la moisson des orges pendant la première partie, la moisson des blés pendant la deuxième partie. Et la moisson donc des orges, la moisson tout court, tout simplement, commence le Shabbat, le soir du Shabbat, qui suit la fête de Pâques. Alors, ça peut tomber n'importe quel jour. Mais il se trouve que l'année de la mort de Jésus, Pâques tombait un Shabbat. Le Shabbat où Jésus a été crucifié, puisqu'il a été crucifié avant l'entrée du Shabbat et enterré à la hâte, avant le coucher du soleil, pour ne pas violer ni profaner le Shabbat. Et par conséquent, donc, l'offrande de la première gerbe devait avoir lieu le dimanche matin, puisque le Shabbat coïncidait avec Pâques. Et donc, le samedi soir, on a coupé la première gerbe dans les champs de Capernaum, qui ont été pendant la nuit transférés à Jérusalem par ces équipes de coureurs qui se relayaient, et donc pour arriver à Jérusalem avant le lever du soleil. Et quand le soleil se levait, le grand prêtre offrait cette première gerbe dans le temple pour les prémices de la moisson qui allait suivre. Et donc immédiatement, à ce moment-là, on commençait la moisson des orges. De telle sorte que, donc, la première gerbe, cette année-là, a été offerte dans le temple avant le lever du soleil. C'est le moment où Jésus est ressuscité, puisque Jésus est ressuscité au moment où les femmes sont arrivées au tombeau, au petit matin, c'était entre chien et loup, puisque même Marie-Madeleine l'a pas reconnu au premier abord. Quoi. Ça veut dire que, comme le dit l'apôtre Paul, Jésus est les prémices de ceux qui sont morts, a été présenté en quelque sorte au Seigneur, son Père, dans le temple céleste, comme les prémices de ceux qui sont morts et qui seront cette moisson qu'il inaugure quoi, avec sa résurrection. Quoi.
Alors, ce qui semble intéressant dans la manière dont vous le présentez, parce que moi je ne connaissais pas cette question de cette gerbe, enfin, non, je ne connaissais pas. Mais c'est qu'on est déjà émerveillé du fait que la crucifixion, enfin que le Christ soit mort, je dirais, au moment de la fête de Pâques,
oui.
En termes de symbolique,
justement,
je dirais que c'est quelque chose d'assez étonnant, mais qu'en plus vienne se surajouter aussi cette question
oui.
de cette gerbe qui est présentée, qui est la gerbe de, là aussi de
messianique, oui.
etc.
Oui.
Il y a des coïncidences, entre guillemets,
oui, oui.
divines qui sont assez
absolument.
Émerveillantes.
Absolument, absolument. Selon Jean, il est mort au moment où on sacrifiait les agneaux.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il est le véritable agneau de Pâques. Et ensuite, il est la véritable gerbe pour Paul dans 1 Corinthiens 15. Quoi. Oui.
Ah, c'est quelque chose d'assez merveilleux.
Oui.
Quelle distance est-il entre la région de Capernaum et Jérusalem?
Ouh, ça fait un bon bout. Hein. Ça fait bien, il y a bien 200 km quand même. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais.
Il faisait un relais. Hein.
Il faisait un relais, oui, bien sûr. Ce n'était pas le même coureur qui faisait tout, bien sûr.
On fait 3 heures pour un marathon, c'est ça? Entre 2 et 3 heures. Marathon 40
km. Oui, avec des relais. Oui,
avec des relais, bien sûr.
Ça passe.
Ah ouais.
Parce que ça monte après.
Ça monte. Mais oui, ça monte. Oui, oui, ça monte drôlement. Hein. Oui.
Sortir de l'eau.
Oui.
Comme l'arche de Noé.
Oui, oui.
Au sortir du déluge.
Oui.
Jésus au sortir de son baptême.
Oui.
Voit la colombe.
Mais oui, c'est sûr, il y a une référence à ça. Ah, il y a une référence, oui. Oui, oui, tout à fait.
Et